Alors, nous allons maintenant aborder la notion de deixis. À l'origine, ce mot de deixis nous vient du grec. Il désigne une action qui consiste à montrer quelque chose. En linguistique, la deixis désigne le phénomène dans lequel la compréhension du sens de certains mots et des phrases dans un énoncé requiert des informations contextuelles. Donc, la linguistique s'est emparée du mot pour lui donner un contenu, et un contenu que je qualifierais de étroitement lié à un énoncé, à une phrase. Dans Le Petit Robert en 1995, le déictique est un élément linguistique qui sert à montrer, à désigner un objet singulier déterminé dans une situation donnée. La définition donnée par Frédéric Landragin, chargé de recherche au CNRS, que vous trouverez sur www.sémantique-gdr.net, le terme de deixis désigne tout recours à la situation de communication. L'énoncé « je veux manger tout de suite » fait par exemple référence à la personne qui parle avec le déictique « je » et à l'instant de l'énonciation avec « tout de suite ». Et ne s'interprète par conséquent que dans la situation dans laquelle il a été prononcé. Dans l'énoncé « je veux manger dans ce restaurant », c'est l'association d'un geste de désignation avec le groupe nominal démonstratif « ce restaurant » qui constitue une forme de déixis. Un tel geste est d'ailleurs appelé « geste déictique » ou encore « geste ostensif », et une telle association référence ostensive, ce qui permet de silhouetter la déixis. Ce dernier terme recouvre tout phénomène de référence impliquant une ostension, que cette ostension soit effectuée par un geste, un signe de la tête ou la direction du regard. Les formes de déixis les plus courantes sont la déixis de personne, la déixis spatiale et la déixis temporelle. La première consiste à une référence à la personne qui parle ou aux personnes en présence de qui on parle au moment de l'énonciation. Plus précisément, en linguistique française, on parle de déixis social relationnel pour les exemples du tutoiement et du vouvoiement qui dépendent des relations sociales entre les deux interlocuteurs et de déixis social absolu pour des exemples d'emploi tels que Sa Majesté ou Monsieur le Président, où seul le statut de l'interlocuteur compte. Deuxièmement, la déixis spatiale consiste en une référence à un élément visible du lieu de l'énonciation, éventuellement au lieu même de l'énonciation. Elle se matérialise avec les déictiques de lieu tels que ici et là. Troisièmement, la déixis temporelle consiste en une référence au moment de l'énonciation, à un moment qui lui est déterminé relativement. Elle se matérialise avec les déictiques de temps tels que maintenant, hier, tout de suite. Pour chacune de ces trois formes de déixis, un geste peut renforcer l'ancrage dans le contexte d'énonciation. Sens possible de la déixis quand elle est centrée sur une étude de texte. On va désigner par déixis l'ensemble des repères internes d'un texte, tels l'énonciateur, le temps du récit ou du dialogue ou encore le lieu d'énonciation. Et ces éléments sont capitaux en traduction, par exemple, car ils apportent des éléments précieux pour saisir au mieux l'exégèse du texte en question. On peut également, dans un certain contexte, parler de déixis personnel, c'est-à-dire le sexe, le lieu de résidence et l'époque à laquelle vit l'individu dont il est question. Maintenant, un petit rappel très bref au niveau linguistique. Saussure définit les deux termes de langue et de parole comme suit. La langue appartient à la communauté et non à l'individu. C'est un système stable appartenant et dépendant de la masse des individus composant cette communauté. Son évolution est lente et constante. La parole est propre à chaque individu, à chaque sujet. Elle diffère d'un individu à l'autre et pour chaque personne. Elle peut varier brusquement en fonction d'une foule de facteurs tels que la mode, les intégrations de mots étrangers, etc. En langue, dans le domaine de la langue, on est dans le domaine de l'arbitraire, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de lien motivé entre le signe et son référent. Et il est important de dire que le signifiant possède un caractère linéaire. Le signifiant étant ce signe, en général, et dans le cadre où je m'exprime ici, il est oral. Ce que je fais vis-à-vis de vous, vous m'entendez, les signifiants que je prononce ont une durée dans le temps, donc un caractère linéaire. Il représente à la fois une étendue. Le mot que je prononce commence dans un temps TA et se termine dans un temps TB. Et cette étendue n'est mesurable que dans une seule dimension, qui est une dimension linéaire. Reprenons maintenant la notion de DXIS et voyons ce que nous pouvons, nous, en faire dans le contexte spécifique de l'enseignement en immersion. La DXI met en jeu un mot et un objet dans une situation de communication ou d'échange. La DXI introduit un lien entre le mot et l'objet pendant la communication. Pour nous, je vous propose d'adopter l'idée que la DXI prendra un sens extensif. Il s'agira d'un acte de monstration, un acte de pointage vers un objet, et cet acte, ou ce regard, ou cette émotion que vous ferez apparaître sur votre visage, viendra compléter l'information, surtout au niveau sémantique, et apporter un complément aux mots prononcés. En ce qui nous concerne, dans le cadre de la mise en œuvre de l'immersion, nous faisons cette adaptation de la définition de la DXIS et nous lui accordons un champ plus élargi, plus important, d'autant plus important que nous nous adresserons à un public d'enfants plus jeunes. Nous nous autorisons cette liberté parce que nous devons pouvoir construire les outils qui nous permettent de penser notre pratique professionnelle. Et donc, nous raisonnerons non pas uniquement dans le champ de la linguistique pure, mais nous raisonnerons dans le champ de la pédagogie appliquée en tenant compte de la linguistique. Et donc, vous voyez tout de suite que la DXIS prend, sous cette forme-là, un véritable sens pratique et que je la mets au service de praticiens. Les situations de communication que nous mettons en place dans nos classes sont souvent compliquées parce qu'il s'agit d'introduire devant un public scolaire des notions inconnues. Par conséquent, nous sommes confrontés à la nécessité de recouvrir nos mots d'un certain nombre de signes complémentaires, d'un certain nombre d'indications contextuelles qui vont permettre à nos auditeurs, à nos interlocuteurs, de se construire des représentations à partir de ce que nous disons. Je reviens juste une minute sur la situation que nous sommes en train de vivre, vous et moi, en ce moment. La communication dans laquelle nous sommes engagés est extrêmement pauvre en DXIS. C'est la situation la pire au niveau pédagogique. Et il est intéressant pour nous, justement, de parler de la DXIS dans une situation qui, finalement, est aux antipodes de ce dont nous voulons parler. Et quelquefois, l'exemple par son contraire permet de mieux penser une situation. La compréhension d'un énoncé dans un contexte scolaire, c'est un enjeu essentiel. Et l'incompréhension préside très souvent aux destinées de l'échec. Alors, dans ce cadre, la DXIS prend une importance stratégique comme complément d'acte pédagogique comme élément de la pratique pédagogique. La définition que je vous donnerai personnellement de la DX6 serait peut-être la suivante. En immersion, la DX6 est une gestuelle où un certain nombre de signes que nous portons sur notre visage ou que nous apportons par notre regard, qui donnent la signification aux mots employés, soit dans une langue inconnue de nos interlocuteurs, soit dans une langue connue d'eux, mais qui constitue un lexique nouveau et qu'ils ne maîtrisent pas. Et je pense très fortement aux mathématiques. Alors, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai tapé plusieurs requêtes, en particulier DX6 et pédagogie. Et je n'ai obtenu que des résultats très, très décevants, très étonnants, parfois extrêmement éloignés de la pédagogie, ce qui me fait penser que, malheureusement encore, nous sommes un petit peu seuls sur notre champ de recherche. J'ajoute que la DX6, telle que je vous la propose, est une arme de combat pour éviter de passer par la traduction. Et je pense en particulier que, de même que en sciences ou en mathématiques, ou même en grammaire, lorsque nous introduisons un lexique plus précis et totalement nouveau pour les enfants, nous ne pouvons pas traduire, nous ne traduisons pas, eh bien, en situation d'immersion, nous ne devons pas traduire. L'hypothèse que je vous propose de bien vouloir étudier avec moi, c'est que nous avons les moyens d'accueillir les enfants en immersion et de ne pas traduire nos paroles, mais d'apporter du sens par notre comportement et justement par la DX6. Alors, notre définition de la DX6, je dirais qu'elle est encore expérimentale et que on va la qualifier de notion à l'essai, dans la mesure où il manque la validation par une communauté scientifique établie de ce sens extensif que je lui donne. Mais pour vous, futurs professionnels de la transmission d'une langue en situation d'immersion, je vous propose d'essayer de l'adopter et surtout de commencer à réfléchir au contexte dans lequel vous allez employer cette notion et surtout ce comportement. Maintenant, je vais vous demander de vous mettre mentalement, et c'est difficile, à la place d'un enfant de 2 ans et demi et de vous représenter marchant, la main, votre petite main, dans la main de votre maman et vous êtes en route pour aller vivre votre premier jour d'école. La méthode de l'immersion pédagogique, l'immersion linguistique précoce, est née du postulat suivant. L'enfant peut apprendre une seconde langue aussi efficacement qu'il a appris sa première langue si les conditions d'apprentissage sont similaires. Alors, à ce sujet, je vous demande de vous rapprocher de l'ISLRF et de demander le fichier PDF. Le professeur Jean Petit avait rédigé un cours qu'il a assuré de 1996 à 2002, et ce cours s'appelle « Immersion et maternation linguistique en milieu naturel et en milieu institutionnel ». Et je crois pouvoir dire que la lecture de ce cours est indispensable au point où nous en sommes arrivés ensemble. Alors revenons à notre situation où nous sommes un petit enfant de 2 ans et demi. L'école est un monde totalement nouveau qui s'ouvre devant nous, devant moi, et c'est un monde extrêmement contrastif par rapport au monde de la maison. tous mes sens sont sollicités et je me rends compte immédiatement que les odeurs ne sont pas les mêmes qu'à la maison, le bâtiment ne ressemble pas à celui de la maison, les salles, les couloirs, les sons, les personnes, tout est différent de ce que j'ai l'habitude de sentir à la maison. Je viens finalement d'être parachuté dans un autre univers. Et pour, je dirais, couronner le tout, eh bien, maman s'en va. Le temps T1 d'un enfant de 2 ans et demi qui découvre de la sorte l'école est un temps de fragilité. Et je fais l'hypothèse que c'est beaucoup plus en raison de la frustration de la séparation d'avec la maman que en raison du nouveau contexte linguistique que l'inquiétude, voire l'angoisse, va s'installer. C'est un point que je vous l'accorde, hein. Il faut encore discuter, critiquer, mettre en question et très certainement bombarder de recherches et d'enquêtes pour valider ou non cette hypothèse. C'est la mienne. En tout cas, la situation proposée par l'arrivée à l'école est une situation anxiogène. C'est celle d'un changement brutal de milieu. Il faut comprendre que pour un enfant de 2 ans et demi, il n'existe pas encore de temps d'avant ni de temps d'après et que ses capacités cognitives ne lui permettent d'appréhender pratiquement qu'un présent étroit. Il faut donc proposer au sein de la classe, pendant les premiers jours et les premières semaines, et grâce à l'accueil particulièrement soigné apporté aux enfants, il faut proposer un biotope pour que ces petits mammifères de 2 ans et demi, 3 ans, puissent se sentir rassurés et très rapidement trouver leur place, se sentir intégré dans un groupe social parce que Homo sapiens sapiens est un mammifère social qui ne peut pas se passer du groupe. À côté de cela, la classe, même si elle n'est pas immersive, propose une situation dynamisante et stimulante dans la mesure où le contact avec ses pairs, avec d'autres enfants de son âge et en nombre, lui permet d'avoir beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de messages, donc beaucoup plus de stimulation. Il y a un enjeu pour l'enfant que nous étions il y a un instant, c'est comprendre ce qui se passe et comprendre que ce qui se passe ne joue pas contre lui, n'est pas là pour lui faire du mal, mais joue pour lui. Et donc, cette notion de compréhension, je l'étends à tous les messages, verbaux et non-verbaux, qui vont avoir lieu au sein de cet univers qu'est la classe. Et des messages dans une classe, il y en a énormément. Il y a une véritable pression cognitive qui s'installe et qui est infiniment supérieure à celle qu'un enfant peut recevoir à la maison, même si, bien souvent à la maison, la télévision est branchée presque en continu et il y a différentes sortes de sources de messages. Ça ne sera jamais comparable avec l'intensité qu'il peut y avoir dans une salle de classe. Dans cette situation-là, le tout petit enfant va aller puiser dans l'expérience qu'il a des relations sociales. Et il va aller rechercher dans sa bibliothèque mentale les outils de matériel de langage dont il dispose pour induire du sens, prêter un sens à ce qu'il entend, à ce qu'il voit, et il va être dans une production intense d'hypothèses et de vérification d'hypothèses, ce qui, au niveau de son cerveau, va représenter une énorme charge cognitive. Ce qui me mène à dire que pendant les premières semaines, pour un enseignant en cycle 1, il faut adopter un rythme qui soit proportionné aux capacités, aux possibilités des enfants, et ce rythme est nécessairement lent. Alors, voyez, je fais une digression. Vous avez souvent remarqué, comme moi, que les examens et concours vous demandent de la rapidité. Je dis que le mode de sélection, peut-être, n'est pas toujours très pertinent, puisque là, je vous demande de la lenteur. Quand l'enfant est né, il est entré en immersion, et il y est même entré avant sa naissance. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre qu'il nous arrive à l'école comme un petit savant, parce que lorsqu'il est né, il n'avait aucune notion de langage, et lorsque vous le recevez à l'école, il est déjà tout à fait instruit de ce qu'est le langage. André Leroy-Gourhan, dans Le geste et la parole, technique et langage, chez Albin Michel, définit le langage comme la possibilité physique d'organiser des sons ou des gestes expressifs et la possibilité intellectuelle de concevoir des symboles expressifs transformables en sons ou en gestes. Eh bien, le langage, c'est surtout cela, la capacité que l'être humain a d'investir de sens des signes symboliques. Et nous l'avons vu, en ce qui concerne le langage humain, ces signes n'ont pas de lien direct, visible, avec leur signification, et donc ce sont des symboles purs, purs symboles. Alors, les enfants que vous accueillez, non seulement sont instruits de ce qu'est le langage, mais ils ont déjà les bases de leur langue dite maternelle. Alors, j'emploie cette expression dite maternelle parce que, bien sûr, c'est le cas le plus fréquent, c'est la langue de la maman, mais il peut arriver des situations de famille particulières, et ça n'est pas absolument nécessairement la langue de la maman, c'est la langue du milieu proche, et qui a entouré l'enfant au cours des premières années. Alors, il est déjà capable d'émettre de petites chaînes organisées de sons, petites chaînes organisées de phonèmes, et ces petites chaînes ont un sens pour les gens qui lui sont proches. Parfois, moins pour les gens qui sont moins proches, et ces sons ne sont pas toujours tout à fait cohérent avec la langue, le standard de la langue qui l'entoure, mais c'est là qu'on voit que le langage humain est bien une convention et que cette convention est assez souple pour que les papas, les mamans considèrent qu'ils comprennent certaines phrases qui sont incompréhensibles en dehors du cercle de famille. Petit à petit, et c'est quelque chose qui va venir progressivement, au cours de la troisième année de vie, la syntaxe va compléter, enrichir les productions faites par l'enfant et on va commencer à avoir de l'ordonnancement dans l'organisation des énoncés. Donc, vous venez de voir qu'entre sa naissance et son entrée à l'école, l'enfant, à partir de rien, a tout découvert et du langage et d'une langue qui est sa langue première. Alors, pour vous qui êtes futurs enseignants et pour ceux parmi vous qui seront enseignants en cycle 1, eh bien, applaudissez, braves gens, pensez à identifier cet extraordinaire apprentissage que les enfants ont fait avant de venir vous voir, Ils n'ont pas bénéficié de l'école pour ça, mais je vous promets qu'ils n'ont pas ménagé leurs efforts. Les études qu'ils ont faites ne prévoyaient pas de vacances et ils ont été extrêmement assidus tous les jours, pour parvenir à ce résultat. Donc, je vous invite à un petit peu d'admiration devant ces petits garçons et ces petites filles qui vous arrivent parce qu'ils viennent de faire un parcours cognitif absolument splendide. Et vous pouvez faire confiance aux enfants. Ils sont intelligents, ils savent s'adapter et ils ont déjà à leur palmarès une véritable performance cérébrale. Alors, quand ils arrivent vers vous, vous leur proposez une langue seconde, la langue cible. Je dis langue seconde et langue cible parce que je parle un peu statistiquement et nous savons tous que dans nos écoles immersives, de plus en plus d'enfants arrivent en n'ayant pas notre langue, celle que nous enseignons et que nous aimons, à la maison, à disposition. Et donc, vous allez reconstituer en classe le bombardement de stimuli auditifs dans un code inconnu que l'enfant avait déjà vécu après sa naissance. Et comme cette opération qu'il avait vécue après sa naissance n'est pas très loin, eh bien, il va se resservir tout à fait des mêmes stratégies et des mêmes populations neuronales qui sont encore bien vivantes, bien actives, pour engrammer la seconde langue, ce qui explique que l'immersion est et reste la façon la plus efficace, et je parle surtout de l'immersion précoce, la façon la plus efficace d'apprendre une langue seconde. Ceci dit, j'attire votre attention sur le fait que les enfants de 2 ans et demi, 3 ans n'ont une capacité d'attention que très limitée. On considère qu'ils ont une véritable capacité d'attention de 5 à 7 minutes par heure. Et donc vous devrez proportionner, bien entendu, et vos activités de classe et vos rituels à cette capacité d'attention. En ayant vous-même une stratégie extrêmement pesée, pensée et qui tienne compte de cela. Lorsque je suis en classe, moi, petit tout de 2 ans et demi, j'entends parler l'enseignante ou l'enseignant, mais j'entends également parler les autres enfants de la classe. Et puis, au-delà de cette parole, j'entends toutes sortes de bruits. Des bruits qui viennent de, bien sûr, l'intérieur de la classe. Un petit camarade qui tape une automobile miniature par terre ou une petite dispute entre deux un petit peu plus loin. Mais j'entends aussi parfois un klaxon automobile ou la sirène des pompiers dans la rue. Et donc, je reçois beaucoup de sollicitations et beaucoup de messages auditifs qui sollicitent mon attention. Ce qui est un peu compliqué pour moi parce que je n'ai pas encore la capacité consciente de focaliser mon attention. Donc, mon attention est encore attirée un petit peu, malgré moi, vers les signes les plus saillants. Et c'est pour ça que je viens de monter la voix et de marquer un petit peu plus fort les explosives, les phonèmes explosifs dans mon discours pour vous montrer à quel point notre oreille est sensible à la question des saillances. Alors, lorsque les mots nouveaux arrivent, on l'a vu tout à l'heure, ils ont cette durée, ils ont cette petite durée linéaire. Il me faut, moi, enfant de 2 ans et demi, saisir cette petite durée linéaire et l'inscrire dans ma mémoire de travail, qui est une mémoire qui a une durée de vie d'environ 5 secondes. Et à l'âge que j'ai, 4 à 5 secondes. Et une fois que je l'ai dans ma mémoire de travail, Et dans ce petit temps de 4 ou 5 secondes, il faut que j'entreprenne le traitement sémantique de façon à extraire du sens de ce signe qu'on m'a envoyé, ce signe auditif. Alors pour l'extraire, il faut que je l'exporte vers l'aire de Wernicke dans un premier temps, et puis tout de suite après vers l'aire de Broca. Et ensuite, il va transiter le message très rapidement dans le lobe frontal. Et au terme de ce parcours, eh bien, je pourrai juger si je reconnais ou si je ne reconnais pas le signe qui m'a été envoyé. Et donc, mon travail principal au cours d'une journée de classe va être de décrypter, de donner du sens à tous ces messages qu'il y a autour de moi. Donc, il va y avoir un travail intensif, d'autant plus que l'enseignante et les enfants ne m'envoient pas les mots un par un. Ils m'envoient des séries de mots, et donc j'ai besoin d'avoir plusieurs traitements de mots pratiquement simultanés. Donc, je suis dans un milieu stimulant dans la classe, mais je serai vite fatigué. Je baigne dans des communications verbales et la plupart des sons que j'entends sont assez nouveaux pour moi. Mais comme le contexte est entièrement nouveau pour moi, et qu'en particulier le contexte social, le contexte école, éducation, formation, employabilité, emploi, réussite sociale, rôle des enseignants, organisation des enseignements, programme, instruction officielle, tout cela, et qui est pourtant constitutif de la classe, m'échappe totalement. Ce sont, pour moi, des implicites auxquels je n'ai pas accès. Mais ces implicites sont ceux qui règlent le comportement de l'enseignante et qui règlent les exigences de l'enseignante par rapport à l'ensemble du groupe des enfants et par rapport à moi. C'est donc indéchiffrable. Je suis dans un contexte qui est indéchiffrable pour moi. Alors, je vais rechercher des sources pour me rassurer. Je vais rechercher tout simplement une place pour moi en fonction un petit peu de mon caractère et de ma façon de fonctionner. Si je suis une personnalité plutôt défensive, je vais essayer de me mettre un petit peu sur les marges du groupe et de me reconstituer une petite bulle, de me mettre un petit peu à l'abri ou en vacances du groupe pour échapper à cette pression que je ressens comme intensive. Si je suis plus dans une démarche offensive, je vais opter soit pour une stratégie de séduction de l'enseignante, soit une stratégie de séduction, de rapprochement avec tel ou tel autre enfant de la classe. Et si je suis une personnalité encore plus offensive, je vais peut-être opter pour l'agressivité et commencer à frapper autour de moi, c'est-à-dire exprimer ma douleur et ma sensation de mal-être par des coups. D'un point de vue darwinien, je suis à ce moment-là simplement un être humain qui mobilise toutes ses compétences et toutes ses capacités pour s'adapter à un milieu nouveau et inconnu et découvrir ce milieu nouveau et voir qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire. Alors, dans mon cerveau, la tempête est intense. Les successions de sons et de silences ne s'arrêtent pratiquement jamais, et je suis sans cesse dans un travail intense de discrimination de ces sons. J'en sélectionne un tout petit pourcentage que je parviens à traiter, un petit peu au hasard, un petit peu en fonction des saillances, et puis de ce qui correspond un petit peu de près ou de loin à quelque chose que j'ai déjà vécu ou déjà senti. Selon le modèle cognitif développé par Hickok et Poppel, tout commence par l'analyse acoustique des sons. Et deux zones dans notre cerveau, une dans chaque hémisphère, y concourent. Dans l'hémisphère gauche, on analyse les segments sonores courts, ceux qui ont une durée d'entre 20 et 30 millisecondes, et dans notre hémisphère droit, les segments qui sont plus longs que cela. Chaque zone fait passer son traitement dans un espace voisin, ensuite, dans le lobe temporal, et nous convertissons le message ainsi pré-traité en représentation phonologique, c'est-à-dire principalement en syllabes. Chaque hémisphère fait son traitement, et quand l'hémisphère cérébral gauche achève son traitement dans l'aire de Broca, celui qui reconnaît les syllabes, une seconde voix qui elle-même sollicite les deux hémisphères s'enclenche et organise les syllabes en mots pour enfin leur attribuer une signification. Et dans la plupart des cas, l'enfant va attribuer une signification, même si celle-ci est fautive. Il va essayer d'attribuer du sens. C'est une sorte de réflexe vital. Et donc, il va interpréter à sa façon ce qu'il entend, ce qu'il voit. Je voudrais préciser un point extrêmement important. Lorsque l'enfant entend parler, il anime les mêmes zones cérébrales et dans le même ordre que lorsqu'il parle lui-même. Le cerveau fonctionne exactement de la même façon lorsqu'on entend quelqu'un nous parler que lorsque nous parlons nous-mêmes. Avec une toute petite différence, c'est que lorsque nous entendons quelqu'un nous parler, nous reproduisons sa parole jusqu'au moment où nous allons la faire sonner, nous allons la faire résonner. Et à ce moment-là, dans notre lobe frontal, il y a une zone d'inhibition qui va intervenir et qui va empêcher notre bouche de prononcer à haute voix ces mots-là. Donc, quand nous écoutons quelqu'un, nous parlons dans notre tête. Alors, c'est extrêmement important pour vous parce que vous comprenez à quel point l'immersion que vous proposez va bien être une école pour apprendre à parler. Et si vous leur parlez, comme on vous le demande, en langue cible, en langue seconde, les enfants vont parler en même temps que vous, de façon silencieuse, cette langue seconde dès le premier jour. Cet entraînement du cerveau de l'enfant au traitement, il a déjà été intense au cours de sa toute petite enfance à la maison pour apprendre la langue de son groupe social et familial. Eh bien, il est là, un athlète entraîné qui vous arrive en classe, et donc ce que vous lui proposez n'est pas une grande difficulté par rapport aux difficultés qu'il a déjà vaincues. C'est quelqu'un qui est extrêmement musclé au niveau neuronal, et donc n'ayez pas trop de projection d'apitoiement. Ces enfants-là, qui effectivement subissent un bombardement cognitif intense, sont, je répète, des athlètes entraînés. Et votre classe, vous pouvez en faire un biotope cognitif, c'est-à-dire un lieu de vie dans lequel vous allez donner à manger avec générosité à tous ces petits cerveaux. Vous êtes finalement payé par la société pour solliciter leur intelligence et leur intelligence adaptative. Et dans ce cas, la classe immersive est réellement un plus parce qu'elle propose non seulement un changement de milieu, et on a vu que mon hypothèse était que c'était le facteur le plus important, mais également un changement de code, ce qui permet d'enrichir encore la situation sollicitante. Donc, nous avons un biotope cognitif riche et plus complexe avec la classe immersive. Et cette caractéristique cognitive de l'immersion, ce qu'on appelle le bain linguistique en quelque sorte, propose aux enfants une situation problème, porteur de travail cérébral, porteuse de travail cérébral, et j'utilise tout à fait volontairement l'expression de situation-problème parce que je fais référence explicitement à Philippe Mérieux. Et je vous invite à lire ce que Philippe Mérieux dit sur la situation-problème. Nous allons maintenant nous placer du point de vue vraiment encore de l'enfant et resituer quelle stratégie il mobilise pour surnager au milieu de cet ensemble de messages cognitifs. Alors, pour dépasser les difficultés de compréhension et puis pour trouver sa place dans le groupe classe, l'enfant mobilise en premier son intuition. Il compare, il trie à partir de ce qu'il sait déjà et du capital que ses deux ou trois premières années de vie lui ont permis d'accumuler. Et son cerveau a une faculté extraordinaire, plus puissante encore que la nôtre, de travail statistique pour sélectionner ce que sont les occurrences les plus nombreuses. Occurrences auditives, visuelles, comportementales. Il va donc sélectionner, trier et se servir de son système perceptuel pour garder finalement ce qui est le plus utile. Et bien entendu, il fait ce phénoménal travail d'une façon tout à fait non consciente. Il n'a absolument pas conscience qu'il fait ce travail. Son activité neuronale est à ce moment-là extrêmement importante. Et il se replace exactement dans la même situation que celle qu'il a vécue après sa naissance, quand il découvrait tout simplement l'air ambiant qu'il s'agissait de respirer, quand il découvrait qu'autour de lui résonnait un langage articulé, c'est tout à fait quelque chose de similaire. Mais, tout à fait au contraire de ce qu'il a vécu après sa naissance, il part d'un capital de connaissances dont nous avons parlé. Sa seconde stratégie va être donc, à partir du matériel statistique sélectionné, de s'appuyer sur les répétitions. Et les répétitions qu'il entend lui permettent la mémorisation. La mémorisation pour laquelle il va énormément faire travailler son cervelet. Et donc, on va avoir un enfant qui va utiliser trois étapes stratégiques pour avancer. Son intuition, la sélection des répétitions les plus fréquentes pour parvenir à une mémorisation et donc à une augmentation de son capital cognitif, et puis l'imitation, parce que par l'imitation, il va se mettre à produire et à reproduire, et l'imitation est un outil extrêmement intelligent, extrêmement utile. Il ne faut pas lui mettre de connotation négative, ni le mépriser. L'imitation est la voie royale pour les premières acquisitions. En parallèle avec tout cela, l'enfant va vivre un travail phénoménal de comparaison non consciente entre son univers familial, l'univers de la maison, l'univers connu antérieurement, et ce nouvel univers, ces nouveaux codes, ces nouveaux comportements. Il va être donc une préparation d'un outil qui va lui être extrêmement utile tout au long de sa scolarité, c'est une capacité à mobiliser des zones neuronales pour établir des comparaisons entre deux objets, voire entre trois objets. Voyons maintenant le point de vue de l'enseignant. Au commencement du cycle 1, à l'école primaire, enfin à l'école maternelle, la communication verbale de l'enseignante ou de l'enseignant s'adresse à un public récepteur plutôt non compétent ou peu compétent. Et donc, il va falloir en tenir compte et surinvestir dans la DX6. Pratiquer la DX6 en début de cycle 1, c'est à mes yeux véritablement un impératif et c'est la mise en œuvre d'une technique gestuelle travaillée, préparée. il faut accompagner le signe verbal avec un signe gestuel ou une mimique de telle façon que le signe intervienne une petite fraction de seconde avant le signe phonétique, le signe verbal. De cette façon, la signification accompagne et recouvre, habille en quelque sorte l'exème, et lorsque l'enfant entend, il entend et comprend vraiment simultanément, et par association, il va mettre sur le lexème une charge sémantique qui sera confortable pour lui parce qu'elle n'aura pas été l'objet d'une longue recherche. En quelque sorte, vous allez introduire dans votre pratique un contrat implicite qui est que vous allez chercher à faciliter le travail de traitement cognitif et vous, qui savez où vous voulez aller, vous allez investir en priorité cette facilité sur les mots clés qui sont ceux de votre classe. Si je peux me permettre d'aller un petit peu au-delà de mes fonctions et de vous proposer un conseil, lorsque vous préparez votre classe, essayez d'avoir pour chaque jour une liste d'une dizaine de mots clés et vous ferez progressivement évoluer votre liste de façon à ce que, de façon, je dirais, confortable pour vos auditeurs en classe, ces mots s'installent progressivement dans leur mémoire et que tout un lexique, de cette façon, devienne à la fois transparent, mais surtout de plus en plus riche, pour parler la classe. Je voudrais rappeler que l'objectif de l'immersion et du bain linguistique en général, c'est d'amener chaque sujet apprenant à l'usage effectif et correct de la langue cible. Donc, je parle bien d'un usage et d'une compétence effective et active. Et pour cela, il faut que l'accès à la compréhension dans un premier temps, mais surtout à l'action, soit facilité. Et il faut donc que dans votre DXIS, vous prévoyez également des moments où vous allez introduire un questionnement ou un dialogue en ménageant des silences qui seront des appels au passage à l'action de vos interlocuteurs. C'est donc vous, par votre stratégie de DXIS dans la classe, qui allez amener vos jeunes enfants, ou moins jeunes d'ailleurs, à s'exprimer, à employer la langue, à mettre en jeu les éléments que vous leur aurez proposés auparavant. Je dirais, pour faire un petit peu une image, que en cycle 1, l'enseignant parle sa classe, c'est-à-dire il va avec ses mains montrer un certain nombre de lieux, d'objets, tout en les nommant, et ce faisant, il va parler la classe. Lorsqu'il se déplacera, il va expliquer qu'il se déplace, qu'il va d'un endroit à un autre, il va nommer les endroits, l'endroit d'où je viens, l'endroit vers lequel je vais, l'endroit où je suis arrivé, il va nommer ses actes, et donc c'est cette façon de parler la classe qui va finalement constituer la DXIS. Alors, je voudrais attirer votre attention maintenant sur un phénomène qui a trait à l'évolution de l'espèce Homo sapiens sapiens. Tout au long de l'évolution, cette espèce qui a d'abord été une espèce de singe a connu des évolutions successives et la dernière qui a été probablement la plus décisive a libéré la main du monopole de la fonction locomotive et préhensive, la main est devenue un outil capable de faire multifonctions, et les mains participent au langage. Il faut savoir que aucun être humain n'est capable de parler sans les mains. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il y a eu des expériences qui ont été menées par des chercheurs ou au cours desquelles ils se sont ingéniés à proposer des situations de langage et d'échange à des humains sans leur dire ce qu'ils observaient. Et puis, au terme des différents tests, ils ont interrogé les personnes qui avaient participé, ils leur ont demandé qu'est-ce qu'à leur avis on cherchait à savoir. Les humains qu'ils ont interrogés, à 100%, ont répondu que c'était soit sur leur capacité expressive, soit sur leur capacité d'élocution, soit sur des questions de vocabulaire. Aucun n'a pensé à formuler qu'on pouvait observer leurs gestes et leurs mains. Or, c'était ce que l'on observait. Et lorsque l'on leur disait que c'était cela, certains répondaient « Oh là là, mais alors j'ai dû être un très mauvais cobaye parce que je ne fais rien avec mes mains quand je parle. » Or, ces mêmes personnes qui avaient été filmées, lorsqu'on leur repassait le film, s'apercevaient avec surprise qu'ils bougeaient énormément les mains et qu'ils avaient beaucoup de mimiques. Donc, nous faisons tout cela de façon totalement non consciente, non contrôlée, mais nous avons tous une DXI. Le problème que vous avez, vous, futurs enseignants, c'est que vous devez transformer votre DXI non consciente et non contrôlée en DXI consciente, contrôlée et qui s'inscrive dans une stratégie. Et c'est une difficulté pour vous parce que cela, effectivement, vous demandera un petit peu d'entraînement, un petit peu d'attention. Alors, en quelques mots, j'élargis encore un petit peu le propos. Je voudrais dire que, au-delà du fait d'avoir libéré les mains, l'évolution a conduit à la verticalisation de l'appareil bucco-phonatoire et à la perversion d'une glande digestive qui aujourd'hui est devenue une glande phonatoire, la glotte. Et donc, cette évolution-là a été indispensable et nécessaire pour parvenir à l'apparition du langage articulé humain. Et on s'aperçoit au cours de cette évolution que parallèlement, la partie antérieure du cerveau, ce qui est derrière notre front, s'est considérablement développée par rapport à nos cousins proches, par exemple les chimpanzés qui ont un cerveau allongé plat. Nous avons des aires extrêmement développées, des aires corticales très très développées dans la zone frontale. Alors, il vous reste maintenant à réfléchir à votre public. Et lorsque vous êtes en communication verbale ou en communication écrite avec votre public scolaire, vous devez à tout instant, que vous soyez en cycle 1, en cycle 2, en cycle 3, et pour ceux qui enseignent ensuite au collège, au lycée, voire à l'université, vous devez absolument penser en priorité à votre public et à son niveau de compétence passif et actif dans la langue que vous employez. Par exemple, ici, à l'origine, je faisais cette intervention totalement en occitan. Dans la mesure où je m'adressais également à des étudiants basques, bretons, alsaciens, pour les Catalans, ça n'aurait pas posé trop de problèmes, je pense, eh bien, j'ai fait le choix, peut-être discutable d'ailleurs, de passer par le code de la langue française. Mais voyez que j'ai eu une réflexion peut-être courte et insuffisante d'ailleurs, sur à quel public je m'adresse. Eh bien, c'est la question centrale pour vous à tout instant. Vous devez être sur ce questionnement-là avant de commencer à préparer une journée de classe ou une séquence. Et donc, au travers de cette évaluation du public auquel vous vous adressez, vous allez faire une évaluation parallèle de la DX6 que vous allez mettre en jeu, et vous allez essayer peut-être de vous donner quelques indicateurs par écrit pour vous guider ou renforcer votre mémoire et inscrire votre DX6 dans une stratégie consciente, pensée, pour dynamiser encore plus les apprentissages dans votre classe. Toute la question est de savoir quels indices sémantiques vous allez pouvoir donner. Et là, j'élargis la réflexion au cycle 3, en particulier lorsqu'on aborde des notions comme la division, mais même la soustraction ou le groupe nominal ou le groupe verbal ou ce que c'est qu'un adverbe, ce que c'est qu'un pronom. Nous avons une situation qui est une situation problème pour les enfants, et pour certains, c'est une situation très problème, et tout tient au fait que le lexique employé fait problème. D'ailleurs, en mathématiques, j'ai un petit peu remarqué, et je crois pouvoir dire, que la plupart des blocages et des difficultés sont plus des blocages de compréhension du vocabulaire qui est mis en jeu que des véritables blocages concernant les procédures mathématiques. Donc vous voyez que je vous trace là les voies d'un travail spécifique que je vous confie et qui consiste à vous adapter, vous, à votre public et à vous adapter, vous, à votre objectif. Alors je voudrais simplement maintenant vous apporter quelques informations très courte, sur des éléments de théorisation. D'abord, sachez que les apprentissages les plus précoces sont les plus durables et que on le constate expérimentalement très facilement lors de la vieillesse, au moment où les performances mnésiques des êtres humains diminuent, les souvenirs les plus robustes, ceux qui demeurent le plus longtemps présents à l'esprit, sont les souvenirs qui remontent à la petite enfance. Et un vieillard, une personne très âgée, va effacer assez rapidement ses souvenirs des années où il avait 40, 50 ans, 30 ans, et il va revenir très facilement sur ses souvenirs d'enfance. Ensuite, le deuxième élément de théorisation, c'est que si vous revêtez les mots que vous employez en classe d'une DX6 pertinente, vous allez pouvoir très facilement faire l'économie d'une traduction. Et vous allez, en faisant cela, vous allez vraiment faire une œuvre pédagogique importante. Pourquoi ? D'abord, en ce qui concerne nos langues. Et là, je parle très tranquillement pour l'alsacien, pour le basque, pour le breton, pour le catalan et pour l'occitan. Nos langues sont dans une situation de domination, elles sont dominées par une langue qui a la volonté, finalement, de leur laisser le moins de place possible, pour ne pas dire pire. Par conséquent, si vous avez recours au français pour donner du sens aux mots que vous prononcez dans votre langue, vous affichez que cette domination est légitime. Vous légitimez la domination, vous légitimez la diglossie, vous renforcez la diglossie et vous donnez aux enfants une leçon éblouissante de la langue qu'on est en train de m'apprendre est une langue faible, petite et qui finalement est une sous-langue. Et en tant que pédagogue, en tant qu'adulte responsable de l'éducation d'enfants, je vous invite à ne pas faire ce genre de leçon. Vous devez assumer votre langue, vous devez l'instituer en classe, C'est votre langue avec laquelle vous communiquez. Vous devez la porter avec fierté, avec conviction. C'est important pour que les enfants puissent se représenter cet outil de communication comme un outil légitime et pertinent. Alors, le deuxième élément, c'est que lorsque vous traduisez, vous appauvrissez de façon tragique la communication. C'est-à-dire que vous réduisez les mots de votre langue au sens d'une autre langue. Et ce faisant, vous libérez les enfants d'un travail d'élaboration qui les enrichit. Et donc, vous les mettez en situation de sous-alimentation cognitive. Ce qui, pour un enseignant, est le comble, je dirais, de l'incompréhension des principes fondamentaux du métier. Au contraire, je vous invite à ne pas traduire, je vous invite à laisser les enfants réinvestir les mots de la langue nouvelle pour eux avec des sens nouveaux, avec des représentations nouvelles, quelquefois fausses, et ils les corrigeront petit à petit, ils les amélioreront petit à petit en fonction de l'usage, en fonction des situations, mais surtout, et je vous le demande avec beaucoup de passion, vous le voyez, avec beaucoup de conviction, ne réduisez pas la charge cognitive des enfants en passant par la traduction. Donc maintenant, nous allons aller à une petite conclusion sur la DX6. La DX6, vous le voyez, c'est une notion qui peut vous conduire à mettre en place pour vous-même un outil dynamisant dans la classe. C'est un outil structurant au sens où il vous permet d'avoir une véritable stratégie du sens dans la classe et stratégie qui va mettre la situation problème proposée par la classe immersive exactement à sa bonne place et sans, je dirais, la froisser, la déformer, voire la déchirer. Alors, bien sûr, vous aurez des doutes, des tâtonnements, des hésitations, mais si vous parvenez à automatiser la DX6, vous apercevrez rapidement que vous la pratiquerez sans y penser. C'est quelque chose que vous allez finir par venir habiter et qui va être comme une seconde nature et comme, malheureusement, l'âge de la retraite recule. Vous faites là un investissement sur la longue durée et en automatisant la DX6, vous, finalement, vous simplifiez un petit peu la vie pour des dizaines et peut-être plus que ça d'années d'enseignement. Alors, le long du cursus, vous retrouverez la DX6. Vous pouvez parfaitement la retrouver sur l'usage de la couleur pour écrire une langue et une autre couleur pour écrire l'autre langue. Le changement de couleur est un message qui passe par la DX6 et c'est un message qui contient du sens et qui aide l'enfant à se repérer parce que cet ensemble flou qu'on appelle une langue est quelque chose qui est difficilement perceptible et en tout cas totalement incompréhensible pour un cerveau de 4 ou 5 ans. Il faut attendre l'âge de 6, 7 ans pour que les enfants commencent à avoir une perception un petit peu floue de ce qu'est cet ensemble qu'on appelle la langue française et de ce qu'est cet autre ensemble qu'on appelle la langue basque, bretonne, alsacienne, occitane ou catalane. Ensuite, en mathématiques, bien sûr, en mathématiques, vous avez des situations où le lexique pose problème et où vous changez de langage parce que les mathématiques sont une langue. Vous devez absolument, à ce moment-là, repenser à mettre en jeu la DX6. C'est très, très important. Et je vous invite à essayer, par exemple, sur la façon de poser les opérations, d'avoir une monstration claire sur la différence qu'il y a entre des dizaines et des unités et trouver par vous-même des moyens de donner du sens hein, ce qui fait que la position d'un chiffre change complètement son sens parce qu'il est dans le rang des centaines au lieu d'être dans le rang des unités, tout simplement. Donc c'est à vous, là, d'inventer la DXI, y compris d'ailleurs en grammaire, hein, on en a dit un mot tout à l'heure. C'est quelque chose de difficile pour un jeune esprit de considérer que le code de communication qu'il utilise, il peut le mettre à distance, le démonter comme une mécanique et que ça devient un objet d'étude. À partir de ce moment-là, les mots qui permettent de décrire cet objet d'étude peuvent poser un véritable problème. Et d'ailleurs, vous l'avez certainement vécu, comme je l'ai vécu. Donc il y a, dans ce domaine-là aussi, besoin d'avoir recours à la DXI. Voilà ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne la DXI. Comme vous l'aurez compris, je la vois, moi, personnellement, à peu près partout et à tout moment le long du cursus, simplement pas investie sur les mêmes objets, c'est sûr, et avec une intensité très particulière et très, très, très importante sur la première année du cycle 1. Je vous demande d'essayer d'y penser par vous-même et, si vous le pouvez, de témoigner de vos propres expérimentations, voire des résultats que vous auriez obtenus ou, pourquoi pas, des inventions, entre guillemets, que vous seriez amené à faire dans le domaine de la DXI, parce que je crois que là, un travail coopératif, un travail d'échange peut nous permettre d'énormément progresser sur ce chantier.